Boîte noire.
Un léger sifflement suivi d'un claquement sec. Il est 5h30 du matin. Sur les pavés humides de la place du Mont Bel Air à Orléans, la tête d'un certain Henri Languille tombe dans un panier d'osier. Languille, condamné pour meurtre, vient d'être guillotiné. Nous sommes le 28 juin 1905. La petite foule qui criait « à mort, à mort !» quelques instants plus tôt, voit alors se précipiter un homme bien habillé qui se penche vers le panier et s'écrie « Languille, peux-tu m'entendre ?» Trois fois la même question. « Languille, peux-tu m'entendre ?» La scène dure 30 secondes environ. L'homme s'appelle Borieux, le docteur Gabriel Borieux. Quelques semaines auparavant, il a rendu visite aux condamnés à mort. Le président de la République venait de refuser de gracier Languille, auteur d'un meurtre crapuleux. Pour 165 francs, une montre, des chaussures et du vin, Languille avait étranglé le vieux bistrotier d'un petit village de l'Orléanais. 28 juin 1905, le docteur Borieux, en criant au pied de la guillotine « Languille, peux-tu m'entendre ?» va tout simplement établir qu'une tête décollée du corps reste consciente environ 30 secondes. Le récit du médecin est édifiant. Immédiatement après la décapitation, les paupières et les lèvres du condamné se sont contractées pendant 5 à 6 secondes. Puis j'ai vu ses spasmes cesser tout à fait. Le visage s'est détendu, les paupières à demi fermées. C'est alors que j'ai crié pour la première fois et j'ai vu ses yeux s'ouvrir lentement. Son regard, poursuit le docteur Borieux, son regard n'était pas vide. C'était indiscutablement des yeux vivants qui me regardaient. Après quelques secondes, les paupières de Languille se sont à nouveau fermées. Au deuxième appel du médecin, la tête cligne à nouveau des yeux. Et le docteur Borieux insiste, c'était toujours un regard vivant. Au troisième appel, « Languille, peux-tu m'entendre ?» Rien. Les paupières restent définitivement closes. Le récit du docteur Borieux a été publié dans les archives d'anthropologie criminelle. Mais, faut-il le préciser, l'expérience d'Orléans n'a pas vraiment fait avancer la science. Des chercheurs hollandais ont aussi prouvé, en 2011, sur des rats non volontaires, que des influx électriques circulaient encore dans la tête de ces pauvres animaux jusqu'à 50 secondes après. Et alors ? Non. Le plus intéressant dans l'expérience du docteur Borieux, c'est d'avoir de façon totalement involontaire fait avancer la cause de l'abolitionnisme. Non à la peine de mort. Dès le lendemain de l'exécution de Languille, le journal Le Progrès du Loiret écrit « Qu'on abolisse la peine de mort, qu'on supprime à tout le moins la publicité inutile, voire dangereuse, des exécutions capitales. » La dernière décapitation en public a lieu en France en 1939.
Boîte noire.
Avec Melchior Testu et Viviane Lee.
Ce détour par les bois de justice, non officiel de la guillotine, car l'échafaud était en bois, mis à part les 60 kilos d'acier affûté du couperet, ce vagabondage capital pour vous laisser enfin dans Boîte noire avec l'histoire de cette semaine. Notre très chère Viviane va nous emmener, grâce à Michel, ex-braconnier de Franche-Comté, dans les années 60, mais aussi dans l'un des plus vieux mythes de l'Occident. Je n'en dirai pas plus, nous nous retrouvons dans la dernière partie de Boîte noire avec, comme d'habitude, les lumières de nos amis du réseau qui ont littéralement flashé sur cette incroyable histoire au cœur des bois.
À l'attention de Madame Viviane Lee et de Monsieur Melchior Testu. J'écris cette lettre parce que je n'en ai plus pour longtemps. Les docteurs m'ont trouvé une saloperie, au foie. Quand ils m'en ont parlé, j'ai pensé que je payais pour les apéros, les digestifs, les pousses-cafés que j'ai bu toute la vie. C'est ce que me répétait Nicole, ma femme. Elle me disait « Michel, ça va te tuer tout cet alcool. Qu'est-ce que je ferais, moi, ensuite ?» Elle me l'a chanté sur tous les tons, ce couplet-là, jusqu'à ce que je la conduise au cimetière. C'était il y a 3 ans. Elle aussi, une saloperie. Mais pas au foie. Nicole, d'ailleurs, s'est épuisée pour rien à me faire la leçon, parce que les docteurs, ils me l'ont bien dit, ce n'est pas l'alcool qui me fait des trous dans le foie. C'est une bestiole. Je l'ai avalée quand j'étais jeune, en même temps que les murs de la forêt de Chaux, dans le Jura. J'ai grandi là-bas avec mon copain René. Lui, il est mort, ça a fait 44 ans, le 28 décembre dernier. Et ça fait 44 ans que j'ai gardé pour moi ce qui s'est passé cette nuit-là, dans le coin de Germinier. Je n'en ai jamais parlé à personne, comme me l'avait recommandé Armand à l'époque. Même pas à ma femme. Peut-être que si je l'avais fait, j'aurais un peu moins fréquenté les bars. Peut-être que je l'aurais aussi réveillé moins souvent la nuit. Elle ne comprenait rien, la pauvre Nicole. Elle disait « T'as le sommeil aussi agité que celui de l'oncle Ernest. T'as pourtant pas fait la guerre d'Algérie, toi. » Nicole, je l'ai rencontrée après la mort de René, à un bal, en Haute-Saône. La haute patate, comme on disait. J'avais fui le Jura et la forêt sans réussir à oublier ce qui nous était arrivé, à René et à moi. René et moi, on s'est connus au cours préparatoire et on ne s'est plus quittés jusqu'à cette nuit de décembre 1966. On n'était pas très doués pour l'école, dissipés, insolents, paresseux. Mais on a quand même eu notre certificat d'études et on est devenu apprenti chez un garagiste, un cousin éloigné de ma famille. Il nous a gardés ensuite comme mécano. C'est comme ça qu'on a pu acheter ensemble une Renault 4 juste après le permis, à notre majorité. Nous avions 21 ans et pas beaucoup de plomb dans la cervelle. On trouvait qu'on ne gagnait pas assez. Surtout quand on a commencé à vouloir sortir des filles, les emmener au cinéma, au bal. Alors on s'est mis à braconner. À l'époque, on n'était pas les seuls. Les restaurants de Vesoul, de Dole ou de Besançon ne posaient pas de questions. Ils payaient comptant nos garennes, nos faisans. Il y avait des fusils dans chaque famille et dans chaque famille un chasseur ou un ancien bidas. Les bêtes, à cette époque, on les classait en 2 catégories, les utiles et les nuisibles. Les bêtes utiles, on les enfermait, on les engraissait pour les tuer et les bouffer. Les autres, toutes les autres, on les tuait aussi.
On n'oublie rien, de rien, on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni les départs, ni les navires, ni les voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visages en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrapes cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, mais ne peut pas nous faire oublier qu'on s'y vrai que la terre est ronde. On n'oublie rien, de rien, on oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien, on s'habitue.
Au garage, de temps en temps, on s'occupait d'un cabriolet, une Ford Mustang. Elle appartenait à un type qui se faisait appeler Lucky. C'est lui qui nous a mis sur le coup. Il nous a dit qu'il connaissait quelqu'un à Paris, prêt à payer très cher une tête de cerf. Il voulait un 18 corps pour épater son beau-frère, un dentiste, avec qui il chassait en Sologne. Ce dentiste avait un 14 corps dans son salon. Il faudrait donc faire mieux pour empocher les billets, un gros paquet de billets. On détestait les dentistes, René et moi. On a dit « Top là !» sans avouer à Lucky qu'on n'avait jamais tiré sur un cerf. Vous savez ce que c'est qu'un 18 corps ? C'est une bête très rusée, parce qu'elle a survécu au moins à une douzaine de saisons. Le genre de cerf qui alimente les conversations au bistrot. Il y a toujours un gars pour dire qu'il l'a aperçu et qu'il l'a raté. Après notre petit accord avec Lucky, on s'est remis à traîner chez Yvonne, un troquet que nous avions fréquenté quand on était apprentis. Yvonne, la patronne, ça ne la dérangeait pas de servir des cafés Calva à des mineurs, le matin, avant l'embauche. Revenir chez Yvonne, ça voulait dire se remettre au 421, le seul jeu qui ne dérangeait pas ses clients. Des chasseurs qui se retrouvaient là pour parler fusil, chien, gibier. On s'était dit avec René qu'il fallait juste laisser traîner nos oreilles, qu'à un moment ou à un autre, un renseignement nous mettrait sur une piste. Il n'y avait qu'à attendre, en lançant ces trois putains de dés et en buvant des panaches ou des perroquets. Le tuyau, c'est Armand qui nous l'a donné, un peu après la Toussaint. Il avait cassé sa chaîne de mobylette, une Peugeot bleue. Tous les vieux en avaient une à l'époque. On lui a réparé sa mob, gratuitement, et on lui a donné des vraies clopes. Il était tout content. D'habitude, il fumait du tabac à rouler, du gris tout sec, qui restait collé à sa bouche. On s'est mis à bavarder. Fusil, chien, gibier. Un 18 corps, il y en avait un qui traînait dans le coin de Germinier. D'après Armand, ce cerf les narguait depuis plusieurs saisons. Entre eux, il l'avait appelé Vincent. Une façon de se foutre du chasseur qu'il avait manqué plusieurs fois. Au début, il disait le cerf de Vincent. Puis, Vincent, tout court. Je vous passe les détails de la traque, la chasse aux crottes, aux empreintes, aux poils laissés sur les écorces. Elle a duré plusieurs semaines. Après le boulot et les week-ends, on montait dans la Renault 4, direction la forêt de Chaux. On avait investi dans un gros phare avec sa pile et on avait le fusil de mon oncle, enfin mon fusil, puisque l'oncle, on l'avait enterré peu avant la Toussaint. Avec le froid, début décembre, le gibier a commencé à fréquenter les lisières. On en a vu pas mal les soirs de gel qui cherchaient à bouffer dans les chaumes, les prés, surtout des chevreuils, des sangliers. Les biches et les cerfs, eux, étaient plus méfiants. Ils s'aventuraient rarement à découvert. Quant à Vincent, nous l'avons aperçu une fois seulement, un soir, au crépuscule. On s'était arrêté dans un chemin en forêt un peu au hasard, une futaie clairsemée, tapissée de fougères. À un moment, René m'a donné un coup de coude et m'a désigné un point sur la droite. À cet endroit, le sol s'élevait gentiment, formant une crête. Le cerf était là-bas, entre les troncs, à environ 50 mètres. Et il nous a semblé gigantesque avec ses bois, comme des branches au-dessus de sa tête. Lui aussi nous regardait, dressé, massif, presque orgueilleux. René a pris le fusil, planqué sous une couverture, et au moment où il a ouvert la portière, le cerf a détalé et a disparu derrière la crête. On est sortis comme des diables de la voiture. On s'est mis à lui crier des trucs du genre « Trouillard, couille molle, tas de bidoche !» Et puis on a redémarré en trombe dans l'idée de le poursuivre. On ne le voyait plus, mais c'était pas grave, on fonçait à travers bois comme des possédés. Notre bagnole, pour ce genre de virée, était parfaite. Elle encaissait tout. On a roulé à fond jusqu'à ce qu'on en ait marre et puis on est rentré en se disant qu'on l'avait presque eu. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say what. La neige est arrivée pile poil pour Noël. Et avec elle, l'interdiction de chasser. On s'en foutait puisqu'on ne chassait pas, officiellement. Pour donner le change, on continuait à lancer les dés chez Yvonne. Le 28 décembre au soir, la température est remontée. Le vent s'est mis à souffler de l'ouest. René, qui en avait déjà un coup dans le nez, m'a proposé d'aller à l'étang du Sauger. C'est à environ 5 km du village. Cet étang se forme à partir des eaux d'une petite rivière qui coule d'est en ouest à travers la forêt. Moi, je serais bien restée chez Yvonne. Il y faisait chaud, j'étais crevée. Allez, on va faire juste un tour. J'ai l'agneau de mon père. C'est ce qu'il a dit pour me décider. Dehors, il faisait clair, à cause de la neige et de la lune. Elle était pleine et jouait avec les nuages. On a arrêté la voiture un peu avant l'étang. René a pris le phare, moi le fusil, et on s'est mis à marcher comme des sioux. La neige commençait à fondre. On avançait contre le vent, longeant la rivière, en direction de l'étang. C'est un étang plus long que large. Sa rive nord descend tranquillement vers l'eau, entre des frênes et des saules. Nous, nous nous sommes postés quasiment en face, planqués dans les taillis. Nous savions que certaines hardes fréquentaient l'endroit et que, ce soir-là, à cause du vent, elles ne nous sentiraient pas. René a sorti la bouteille de sa veste. L'alcool de prune que distillait son père. On n'avait pas froid, mais boire de petites lampées au goulot, ça nous semblait de circonstance. Je ne sais pas combien de temps nous avons attendu. Immobile, silencieux. Le vent, le grincement des branches, la nuit, tout ça ne nous effrayait pas. On avait l'habitude. Et puis tout à coup, on l'a vu arriver, en face, à environ une quarantaine de mètres. Il était seul, immense, et devait peser près de 200 kilos. Quant à ses bois, tout ce que je peux dire, c'est qu'il lui faisait comme une couronne. Il s'est approché de la rive, pas à pas, méfiant. On n'a pas bougé. Quand il a commencé à boire, René m'a fait signe. Il était meilleur tireur que moi, alors je lui ai laissé le fusil. On a encore attendu un moment, le temps que le cerf se positionne un peu de biais. On voulait éviter les dégâts de vénerie. Fallait pas saloper le travail, lui exploser la tête. L'idéal, c'était de pouvoir le tirer au poumon ou au cœur. « Maintenant !» m'a soufflé René. J'ai braqué le phare sur la bête, René a tiré. Le cerf s'est effondré. C'était fini. Ensuite, on aurait dû reprendre la voiture pour aller le récupérer. Mais on n'y a pas pensé. On était comme des fous, déjà à moitié sous, pataugeant dans la boue, la neige, la tête pleine du fric qui allait nous tomber dessus. Arrivé près du cerf, j'ai vu que René l'avait eu au poumon. Un sang mousseux lui tachait la hampe et le flanc. Il était encore chaud, mais son cœur s'était arrêté. J'ai compté ses bois. Armand n'avait pas menti, c'était bien un 18 corps. René m'a dit qu'il ne fallait pas le laisser là, que ce ne serait pas pratique à cause de la pente et du reste. Alors on l'a empoigné par les pattes et on l'a traîné jusqu'à une clairière qu'on connaissait pas loin. On lui a tranché la tête au couteau de chasse. Et comme on s'est mis à avoir faim, on lui a piqué un peu de barbac et on a allumé un feu. On était redevenus des Indiens. Les Mohicans de notre enfance, l'agneau en plus. Ensuite, je nous revois debout près du feu, cernés par de grands hêtres, buvant des lampées de prunes à la santé de Vincent, nous félicitant mutuellement, traitant les autres de couillons, d'incapables. Je revois le cerf, sa tête un peu de travers dans les feuilles mortes, son quart vitreux, et son corps massif, souillé de sang. Et puis soudain, je revois cette tête d'animal mort, et il me semble qu'elle frissonne, qu'elle bouge, qu'elle a bougé. Là, t'as vu ? Et René rigole, me traite de tapette, de trouillard. Et René qui blêmit lorsqu'il la voit à son tour se redresser tranquillement. Et que cette tête, frangée de lambeaux de chair, nous fixe avec son regard toujours mort et que lentement son front s'incline, boit agressif, déterminé, et qu'elle s'élève dans les airs et se met à nous charger à une vitesse folle pour nous clouer à un tronc d'arbre. J'entends encore René qui hurle, la bouche pleine d'un sang mousseux. Je le revois se démener pour tenter de s'extraire de ce piège. Et je me revois, moi, aussi, en train de me débattre, de hurler, tout comme lui, transpercé un peu à gauche, un peu à droite, prisonnier de ces andouillés, de ces bois qui avaient l'air de me chercher la viande. Quand René s'est arrêté de lutter, quand sa tête est retombée sur sa poitrine, j'ai perdu connaissance. C'est Armand qui nous a retrouvés et libérés le lendemain matin. Je pleurais et je grelottais en lui racontant ce qu'il s'était passé, croyant à peine moi-même les mots qui sortaient de ma bouche. Il a regardé mes plaies, me palpant ici et là. Et puis, il a dit « Si vous aviez été un peu moins con, ton copain et toi, vous auriez su qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas contrarier. » Puis, regardant le cadavre de René et celui du cerf, il a ajouté « Tu ferais mieux de changer ton histoire. Tu diras que vous avez croisé un cerf, qu'il a chargé et qu'il a embranché René avant de s'enfuir. C'est déjà arrivé. » Ensuite, il m'a obligé à traîner le corps du cerf et sa tête jusqu'à l'étang. Il m'a expliqué comment les lester avec des pierres et il m'a obligé à entrer dans l'eau pour noyer le tout. Après, on a transporté le corps de René dans la voiture. Et là, il m'a dit « Maintenant, tu te débrouilles avec les autres. C'est plus mon affaire. » Les gendarmes, la famille de René, les copains, tout le monde a cru à mon histoire, ou plutôt à celle d'Armand. Un peu après l'enterrement, j'ai démissionné du garage et j'ai trouvé un boulot de représentant en spiritueux, à Vesoul, loin de la forêt de Chaux, où je ne suis plus jamais retournée. Je ne sais pas si vous croirez à mon témoignage, mais je vous jure que c'est comme ça que René est réellement mort, cette nuit-là, du côté de Germinier. Bien à vous, Michel.
Boîte noire.
Avec Melchior Testu et Viviane Lee.
Michel, vous nous demandez à la fin de votre courrier de vous croire, mais c'est le principe même de Boîte noire. Collecter des histoires, des témoignages qui tordent le réel sans jamais les remettre en cause. Et à défaut de pouvoir expliquer ce qu'il s'est passé, d'apporter, grâce à nos amis du réseau, des informations pour éclairer ce que vous avez vécu. Et je crois, chère Viviane, que nous devons revenir d'emblée sur la figure mythique du cerf. Le cerf, ce n'est pas n'importe quel animal.
Je vais vous décevoir, Melchior, mais vous allez un peu vite à mon goût. Dans cette histoire, le cerf, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt.
Et pourquoi ?
Parce que les forêts, les arbres, peuplent les mythologies nordiques bien avant l'homme et les animaux. Mmh. Les forêts sont des lieux sacrés, des temples à ciel ouvert. Aujourd'hui encore, la plus grande forêt du monde, la forêt amazonienne, est considérée ainsi par les peuples qui y vivent.
Et qu'est-ce que ces peuples projettent ou savent de cette forêt ? Est-ce qu'elle est encore plus vivante qu'on ne le croit ?
Plus vivante et surtout plus habitée par des esprits. Esprits des arbres, des plantes, des pierres, des animaux. Certains affirment en avoir aperçu.
Et d'autres les ont vus. Tous les spectateurs du film d'animation Princesse Mononoke, où le réalisateur japonais Miyazaki peuple la forêt de ses petits esprits. Là-bas, on les appelle les kami. Et il y a aussi un cerf dans ce film, et je crois que nous y reviendrons.
Puisque nous sommes au Japon, est-ce que vous connaissez la forêt de Aokigahara ?
Ah, la fameuse forêt des suicidés. Deuxième spot mondial pour les candidats au départ, après le Golden Bridge de San Francisco. 200 suicidés en 2010, année record. Mais, chère Viviane, ce n'est pas la forêt qui tue tous ces gens.
Forêt hantée, forêt chargée. Au 19e siècle, on y déposait nouveau-nés encombrants et vieillards en fin de vie. Leurs esprits hantent-ils encore ces lieux ? Ce qui amène, selon nos amis du réseau, à l'éternelle question de la poule et de l'œuf. Aokigahara est-elle une forêt maléfique qui génère du malheur ? Ou est-ce le malheur des hommes qui a rendu l'endroit maléfique ? plus surprenant peut-être. La communauté scientifique n'est pas loin de penser que les arbres communiquent entre eux.
Par mail ?
Non, grâce à leurs racines et au mycélium, ce réseau de filaments émis par les champignons souterrains. En cas d'attaque de prédateurs, par exemple, ils se passent l'info et émettent des substances qui vont soit empoisonner ces prédateurs, soit attirer des insectes auxiliaires.
Vous voulez dire, si l'on revient à notre histoire, celle de Michel et de René dans la forêt de Chaux, dans le Jura, vous voulez dire que les arbres ont considéré qu'ils étaient des prédateurs ?
En quelque sorte, oui. D'autant qu'ils se sont attaqués à un animal emblématique de la mythologie forestière.
Le cerf.
Voilà, nous y sommes. Ce cerf qui gambade déjà entre les branches d'Yggdrasil, l'arbre-monde des peuples nordiques. Ce cerf dont les bois ornent la tête de Cernunnos, le dieu gaulois et celte, dieu de la virilité et de la régénération.
Oui, à cause de ces bois. Cette ramure qui ressemble aux branches des arbres, ces bois qui tombent et renaissent chaque année, cycle infini de la vie. Un animal noble que seuls les rois avaient le droit de chasser d'ailleurs. Pendant des siècles, braconner un cerf était puni de mort.
Et des rois d'ailleurs qui ont choisi le cerf pour orner leur bannière ou remplir leur assiette, persuadés qu'en mangeant du cerf, ils héritaient du pouvoir de renaissance de l'animal. Et même sa peau avait un pouvoir, puisque certains rois l'ont choisi comme linceul.
Et quand les vieux mythes celtes ont cédé la place au christianisme, il est quand même resté un peu de cette magie, déguisée. Puisque Saint-Hubert, par exemple, se convertit en voyant apparaître un cerf avec un crucifix entre les bois.
Tout ça pour dire que, et ça, si l'on admet bien entendu que la forêt est un être vivant peuplé d'esprits et que le cerf en est une des figures sacrées, eh bien, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas contrarier.
Oui, c'est d'ailleurs ce que disait précisément le vieil Armand lorsqu'il a retrouvé Michel cloué à cet arbre par les bois du cerf. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas contrarier.
Boîte noire.
Avec Melchior Testu et Viviane Lee.
Il reste une piste d'explication de l'inexplicable qui n'a rien à voir avec la forêt ou le cerf. Vous vous souvenez des esprits frappeurs, des poltergeists. Une des hypothèses est qu'il s'agit de télékinésie inconsciente. Une personne déplace ou agite des objets sans le savoir, sans le vouloir, par la force de son esprit ou de ses émotions. Alors, supposons que la tête du cerf ait été portée psychiquement par l'un des deux braconniers. Ils sont jeunes, un peu perturbés et en plus très alcoolisés. L'inconscient de l'un des deux a pu alors faire le travail. Très clairement, il savait qu'il avait enfreint une règle, un interdit, un tabou même. Bon. Je vous laisse sur une question. Dans ce cas, lequel des deux a décidé inconsciemment de se punir ou de punir l'autre ? Merci, chère Viviane, d'avoir prêté votre voix à Michel et d'avoir habillé musicalement cette terrible promenade en forêt. Merci à nos amis du réseau pour leurs recherches et leurs idées parfois surprenantes autour des bois et du cerf. Merci à tous de nous écouter, de nous écrire. Surtout, n'hésitez pas, racontez-nous ce jour au bord du réel. Partager ce genre de témoignage est un enrichissement pour nous tous. Si l'espèce humaine est toujours de ce monde, Boîte Noire revient la semaine prochaine, dans cette dimension ou dans une autre. Qui sait ?
C'était Boîte Noire, une émission proposée et réalisée par Marie-Françoise Gaucher, avec les voix de Melchior Testu et Viviane Lee. Aujourd'hui, vous avez pu écouter Philippe Shepard, Far But Close, Jacques Brel, On n'oublie rien, les Beatles, Got to Get You Into My Life, et Eberhard Weber, On a White Horse.